La chronique environnement. Alors je suis avec Adeline Bédoc de la LPO. Bonjour Adeline.
Bonjour Fabien.
Alors on va parler de migration aujourd'hui. Comment on pourrait définir une migration? Qu'est-ce que c'est la migration des oiseaux? On parle bien des oiseaux.
Alors la migration, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, c'est pas tout simplement de fuir le froid pour aller se réchauffer là où il y a du soleil, mais c'est plutôt un phénomène en fait d'adaptation où les oiseaux vont migrer pour la ressource alimentaire. Puisque là, on le voit bien, avec l'hiver qui arrive, il y a moins d'insectes, il y a moins de fleurs, donc moins de ressources alimentaires en fait tout simplement pour les oiseaux.
Ils vont aller où?
Alors, la plupart que nous avons qui sont en France, pour la plupart, vont descendre en Afrique, donc Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Certains vont même aller aussi du côté Europe Nord. Les flux sont assez aléatoires, on va dire, mais la migration est assez constante en réalité. On a le gros phénomène qui se fait actuellement suite à la fin des reproductions, donc sur ces mois, fin septembre, octobre et novembre, mais on a de la migration qui se fait également toute l'année en fait.
À partir de, je sais pas, de combien de kilomètres, on pourrait dire que c'est une migration? Si un oiseau il se déplace du nord de la France au sud de la France, est-ce que c'est déjà une migration?
Alors oui, et en fait une migration c'est plus par rapport aux individus. On qualifie une migration dite totale quand on a toute une population d'une espèce qui va se déplacer. Donc en fait, toute l'espèce en soi, chaque population, vont se déplacer en groupe. Après, on parle plus de migration partielle quand vous allez avoir que quelques individus d'une population ou de l'espèce qui vont se déplacer. Donc certains comme le rouge-gorge par exemple, certains vont à peine se déplacer sur la France et d'autres vont parcourir quelques kilomètres quand même. Donc c'est là où on va parler de migration partielle. Après, ce qui peut être très particulier dans la migration, on va dire, c'est que chez les espèces, on a différents types de stratégies. Donc on va avoir, par exemple, des planeurs comme plutôt les rapaces ou type les cigognes, donc qui vont avoir une adaptation pour éviter de s'épuiser rapidement. Donc ils vont utiliser tout simplement les ascendances thermiques pour pouvoir se déplacer, donc se laisser porter par les chaleurs qui remontent, qui vont faire cet effet de tourbillon, donc pas de souci, tout va bien, elles ne sont pas folles, elles ne tournent pas en rond, elles ne sont pas perdues, et elles vont se laisser redescendre pour ainsi de suite se laisser porter par tous les courants d'air qu'il va avoir. Ensuite, on a aussi des types de vols type en V. Donc le type de vol en V, ça va être plutôt un type grue ou oie. Donc l'avantage de ça, c'est que en se mettant en V les uns derrière les autres, le premier individu va avoir un bienfait sur celui qui est derrière, puisqu'il va pouvoir profiter en fait de l'élan du premier pour se laisser porter aussi. C'est aussi une technique pour essayer d'économiser l'énergie en fait en le faisant collectivement à ce niveau-là. Et puis on a les derniers, donc les vols en battue. C'est celui qui va être le plus coûteux en termes d'énergie. Donc on a les hirondelles, les martinets, donc plutôt les petits passereaux. À ce niveau-là, ça va être en fait une qualification, on va dire, des compétences où ce sont des vols les plus efficaces et plus rapides, mais qui vont être très épuisants, donc qui vont comprendre également beaucoup de haltes. Donc on parle de haltes quand les oiseaux, on les voit faire des pauses, donc c'est pareil, pas d'inquiétude. À ces périodes-là, on voit souvent des petits groupes d'individus ou un individu par-ci par-là qui vont se poser. Donc dernièrement, par exemple, des cigognes. On a eu des gros groupes, par exemple, sur les flux migratoires de Limoges, qui pouvaient aller jusqu'à 200 individus. Et on a eu quelques unités, donc 3 individus du côté de la Creuse, qui ont fait des pauses, donc tout simplement des haltes. Donc pas de panique, elles ne sont pas en détresse non plus.
Comment ils arrivent à s'orienter? Ils n'ont pas de carte?
Alors non, mais ce qui est intéressant, en fait, depuis maintenant quelques années qu'on fait des suivis, on a pu remarquer que les oiseaux avaient la capacité tout simplement à eux aussi avoir des points de repère, donc les reliefs, les cours d'eau aussi, les grandes rivières. Donc quand là on parle par exemple du plateau de Millevaches avec ses hauteurs, ça va faire des points qui vont pouvoir être remarqués chez l'oiseau et donc des points d'observation pour savoir où il est. Il y a aussi le côté où les oiseaux ont en fait un instinct, on va dire, si on peut dire. c'est remarqué chez les plus jeunes, ou de manière générale, il y a une compétence acquise depuis le départ, donc qui est plutôt en fait innée et non apprise, où les oiseaux vont tout simplement migrer dans une direction. Donc c'est ce qui est plutôt, on va dire, amusant, dans le sens où les jeunes vont, sans le savoir, ils savent où ils vont et ils font tout simplement une direction directe, mais c'est ce qui est malheureusement des fois un souci, puisqu'on a souvent des jeunes qui s'égarent, donc ce qui peut expliquer aussi parfois certains oiseaux qu'on retrouve à certains endroits qu'on ne devrait pas, ou tout simplement, par exemple, en mer, on va avoir des oiseaux qui se sont perdus en mer, puisqu'ils ont perdu tout simplement leur direction. À ce niveau-là aussi, pour la direction des oiseaux, on a remarqué qu'il y avait un jeu, tout simplement aussi magnétique, si on peut dire, avec le soleil, le noyau de la Terre. Donc il y a une attraction qui joue sur le côté physique et qui fait que, par rapport à ces compétences-là, il y a une attraction qui va les diriger par le champ magnétique.
Et concrètement, ça se passe comment, le suivi ?
Quand on fait du suivi d'espèces, on va faire de l'observation directe. Donc, il y a un peu de faire un comptage et se rendre compte un peu d'où les populations passent. Mais il y a aussi le côté où on va faire du bagage, donc mettre une bague aux oiseaux. Ça va nous permettre, de quand on a un relais dans d'autres pays ou dans d'autres continents complets, de pouvoir suivre en fait, les individus, savoir d'où ils sont partis. Mais on a aussi le côté où on fait du suivi avec des balises GPS. Donc c'est là le plus intéressant, et c'est un peu celui-là qui nous fait jouer sur les grands mystères, on va dire, de la migration, mais qui ne nous révèle pas forcément tout, puisqu'on se rend compte que justement, les oiseaux parfois ne vont pas avoir de sens, ou nous, on ne va pas comprendre leur sens. Donc il y a forcément une raison pour laquelle ils vont sur ce site. Souvent, c'est tout simplement un site de référence, comme dire on est né quelque part, on est attaché à notre terre, donc c'est surtout là-dessus que ça va jouer. Ou à un endroit spécifique, par exemple, ils savent qu'ils peuvent mieux se reproduire en France, donc certains vont avoir leur habitude, comme on le voit chez, par exemple, les hirondelles. Pourquoi leur nid est si important que ça ? Puisqu'elles vont revenir exactement sur leur site et même voir le nid qu'elles ont fait l'année précédente. Donc ça a toute une importance à ce niveau-là. Mais on a encore beaucoup, beaucoup de questions et on ne saurait pas tout expliquer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une connaissance sur les oiseaux, en fait, de leur déplacement. Ils ont une sorte de communication, il y a tout un réseau fait, hein. C'est collectif, mais nous, on n'a pas la capacité de les comprendre sur ça.
Alors vous, à la LPO, vous participez à ce suivi. Comment ça se passe exactement ?
Alors, nous, on a des chargés de mission qui font réellement ce travail de suivi des espèces, qui le font même toute l'année. Après, quand on a le gros phénomène de migration, on a des campagnes qui vont se faire, donc pour inviter le grand public à nous aider à compter, parce que quand on compte de quelques individus, ça va très bien, mais dès qu'on commence à atteindre 200 individus, ça devient important. Et quand on va dépasser les 1000 individus, il y a vraiment besoin d'être plusieurs pour compter, et encore je pense qu'on est bien loin des fois des comptes. Il y a toujours une marge à ce niveau-là de décalage. Ensuite, on a aussi d'autres structures. Par exemple, dernièrement, nous travaillons sur une campagne de migration en appui au PNR, donc le PNR de 1000 vaches, qui ont recruté un chargé de mission justement pour la migration. Et à ce moment-là, nous lançons par exemple un appel bénévole. Donc le public est invité à rejoindre en fait le chargé de mission dans accueillir le public et effectuer le comptage sur le plateau. Donc ça se déroule sur le mois d'octobre, on a le mercredi 11 octobre, on a le week-end du 14-15 et le week-end du 21-22 octobre. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est un suivi assez particulier puisque on accompagne un chargé de mission, donc c'est quand même à destination des adhérents, mais toute personne qui serait adhérente ou qui devient adhérent peut vraiment aller accompagner un chargé de mission et se mettre un peu dans ce rôle-là de suivi des espèces et un côté ornithologie. Ça permet aussi une initiation pour apprendre les espèces, puisque pour faire un comptage sur la migration, il faut quand même une petite base, on va dire, de connaissances sur les espèces. Après, on a d'autres sorties, comme celle qui sera à Sessaguet, Donc c'est Saguet, ça sera le 8 octobre. Donc là, c'est un événement qui est grand public, ouvert à tous, pas spécialement aux adhérents. C'est vraiment pour tout le monde. Il suffit tout simplement de passer un contact à l'animateur, donc qui sera notre chargé de mission, Franck Tabouri, pour aller suivre avec eux donc sur la Haute-Vienne, la migration à ce moment-là, puisqu'on va aller dans l'observation directe, chercher des points culminants, donc des points stratégiques qui nous permettent de balayer vraiment les paysages avec un dégagement, on va dire, sur des zones en hauteur pour voir vraiment les oiseaux passer au-dessus de nous.
Il faut se former pour faire du comptage ?
Pas spécifiquement le comptage, à part avoir de la connaissance, on va dire, sur les espèces. Mmh. Après, le but, c'est tout simplement de compter. Donc, quand vous savez compter, ce qui est la majorité des cas, tout le monde peut participer. Après, voilà, c'est plus quand vous êtes débutant, se faire accompagner ou d'accompagner quelqu'un sur sa mission est mieux. Mais quand vous devenez assez autonome, en fait, vous pouvez faire réellement un comptage tout seul à ce moment-là. Et puis, le comptage... quand vous faites du renseignement, on va dire naturaliste, on a une plateforme qui s'appelle Faune Limousin. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. On a des enquêtes particulières où là, c'est dans un cadre particulier, on fait de la formation avec le chargé de mission. Mais pour toute observation directe, comme là maintenant la migration, vous pouvez tout simplement rentrer votre observation. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, tout simplement un mail, un mot de passe et c'est bon, vous pouvez contribuer à la plateforme.
Donc ça, c'est le suivi, on va dire, participatif, à l'œil nu.
Oui.
Y a d'autres méthodes pour faire du suivi ?
Alors, on a d'autres méthodes. On a des enquêtes participatives. Par exemple, prochainement, on va avoir les chocs, qui sont les suivis des oiseaux hivernants, en fait, des oiseaux communs hivernants. Donc, parce qu'on le sait, on a des migrateurs totaux, on a des migrateurs partiels, mais on a aussi tout simplement certains individus qui ne migrent pas. Et ça permet aussi tout simplement de faire un suivi de ces espèces qui restent en fait, par exemple en France, savoir qui ils sont, comment ils se débrouillent, essayer de comprendre un peu plus leur comportement à ce moment de l'année. Donc pour la majorité, par exemple, ils sont déjà en train de rechercher les futurs endroits pour poser leur nid ou les futurs nids. Donc quand on parle de faire des nichoirs, on dit souvent sur les mois de janvier-février, mais en réalité, en fait, on peut commencer dès maintenant à proposer des nichoirs pour les futurs locataires qui sont très souvent difficiles.
Il y en a d'autres des méthodes. Moi, je pensais qu'il y avait une méthode avec un GPS.
Ouais, la balise GPS. Bah, après, sur une balise GPS, on va suivre vraiment tous les mouvements. Et après, il y a toute une étude de diagnostic, de statistique, pardon. Où on va par exemple enregistrer la hauteur des vols. Donc tu as des individus qui vont passer au-dessus de l'Himalaya, donc à plus de 8000 mètres, ce qui est énorme. Donc on en a qui vont battre des records à 11000 mètres. Mais tout simplement, on se rend compte que là où les oiseaux naviguent, donc sur les premières couches de l'atmosphère, en stratosphère, ils vont pouvoir atteindre des hauteurs mais bien plus hautes que celles-ci. Donc ce qui est plutôt impressionnant, c'est l'avantage en fait des balises GPS à ce niveau-là. La balise GPS aussi, elle permet d'avoir un enregistrement direct. Donc on a, on va dire, un suivi plus certain des déplacements. Et ils permettent également de mettre en valeur tout simplement les nouveaux flux qui pourraient exister, puisque comme ça se déplace toute l'année, on a plusieurs petits déplacements qui peuvent se faire. Et on remarque que parfois, ce qu'on va appeler dans un champ un flux migratoire, c'est une zone où on a plusieurs passages du groupe, qui est quand même assez récurrent d'année en année. Mais on a des exceptions parfois de un ou deux individus avec quelques passages ailleurs qui vont le faire soit toute une année, soit qui vont l'arrêter d'un coup ou changer en fait quelque part leur direction. Et on aurait remarqué que ce serait une phase test pour prétendre à un nouveau champ, un nouveau flux qui pourrait être intéressant pour eux tout simplement avec tout le décalage qu'on voit actuellement. Donc quand on parle de réchauffement climatique, etc., on va avoir un changement tout simplement aussi des flux, donc du vent qui vont être très différents d'une région à une autre, donc qui vont pousser les espèces à se déplacer différemment ou autrement, indirectement qui les pousse à avoir d'autres directions. Et on va parler vraiment de flux ou de champs migratoires quand on va avoir une zone qui va être assez fréquentée et récurrente sur plusieurs années.
Et merci Adeline Bédoc, et à bientôt pour une nouvelle chronique environnement.